Dieu a écrit de merveilleux scénarios pour nos vies. Dieu a écrit des histoires pour nos vies. La Bible elle-même est pleine d'histoires. C'est vrai que la Bible est avant tout la révélation de Dieu, la révélation de Jésus-Christ aux hommes. La Bible est aussi un livre de doctrine biblique. La Bible est aussi un livre de préceptes, de principes et d'éthique chrétienne. Mais la Bible est aussi un ensemble d'histoires. L'histoire de Jésus en premier lieu, l'histoire des apôtres, mais aussi toute une multitude d'histoires qui nous racontent la vie d'hommes et de femmes qui ont été partenaires de Dieu. Ces histoires sont là pour donner une substance plus palpable, quelque chose de plus saisissable pour nous. Car il est évident que dans les principes doctrinaux, parfois nous nous perdons. Mais lorsqu'il est question d'hommes et de femmes qui nous ressemblent, alors il est plus facile de nous identifier, de nous amener à réfléchir quant à nous-mêmes. Dieu a écrit des histoires pour ces hommes et ces hommes ont vécu leurs histoires. Dieu a écrit une histoire pour chacun d'entre nous. Il nous appartient de vivre notre histoire. Dieu a écrit une histoire extraordinaire pour un jeune homme remarquable. Et dans cette histoire, Dieu avait prévu que ce jeune homme serait un jour le second auprès du roi selon le cœur de Dieu auprès de David. Dieu avait écrit l'histoire de cet homme en lui disant tu seras la sagesse, tu seras le secours, tu seras l'appui, tu seras le conseil, tu seras le consolateur de David. Et je te placerai à ses côtés pour régner à ses côtés afin de le fortifier. Le jeune homme concerné par cette histoire s'appelait Jonathan. Et c'était un jeune homme remarquable. Dieu avait écrit une magnifique histoire pour lui. Mais aujourd'hui, mon message va prendre une tournure assez tragique, assez triste. Tout simplement parce que l'histoire de ce jeune homme ne s'est pas écrite. Le scénario n'est pas arrivé à sa fin. Au contraire, ce jeune homme, par les choix qu'il a faits, a suivi un chemin qui n'était pas celui que Dieu avait préparé pour lui. Nous ne pouvons pas avoir dans nos prédications que des messages donc avec des fins joyeuses. La Bible nous donne des histoires qui finissent bien, mais la Bible nous dit aussi la vérité et elle nous raconte des histoires qui finissent mal. Non pas pour nous abattre, mais pour nous amener à réfléchir. Parce que quelle que soit l'extraordinaire histoire que Dieu a écrite, elle est écrite dans les cieux, mais c'est sur terre qu'elle doit être vécue. Nous allons aller dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 1er pour faire une lecture des versets 22 à 27. Ce passage s'appelle le cantique de l'arc. C'est un cantique que David a écrit, inspiré par le Saint-Esprit lorsqu'il a pris la mort de Saül et Jonathan, tués par les Philistins sur la montagne de Gilboa. Et voilà ce que David écrit de Samuel, chapitre 1er, verset 22. « Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. » Et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient plus forts que les lions. Ô fille d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Ô, je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère, tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Dieu avait écrit une histoire extraordinaire pour Jonathan, Mais cette histoire n'a pas été vécue sur terre. Parce qu'un jour, Jonathan fit un choix dont il ne mesura peut-être pas les conséquences immédiatement. Mais à cause de ce choix, nous allons le voir, et j'espère que cela marquera votre cœur. Jonathan va disparaître des Écritures. Précipitamment, précocement, Jonathan va disparaître pour ne réapparaître que sur la montagne de Gilboa lorsqu'on nous rapporte sa mort. À cause de ce choix, jamais Jonathan n'a marché avec David. Jamais Jonathan n'a régné aux côtés de David. À cause de ce choix, et malgré toute l'affection qu'il portait à David, Jonathan a lié son destin à celui de son père. Et à cause de ce choix, Jonathan a précipité sa fin. Son choix l'a enchaîné tragiquement à la chute de son père Saül. Et David a écrit, nous l'avons lu, « Saül et Jonathan, aimables, chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. » Ainsi mourut Jonathan au milieu de la défaite sur la montagne, sans avoir écrit son histoire. Alors je vous le disais, Dieu a écrit une histoire pour chacun d'entre nous dans le ciel. Elle est unique, elle est extraordinaire, mais il nous appartient cet après-midi d'entendre la leçon de Jonathan afin de ne point passer à côté de cette histoire, afin de vivre pleinement l'histoire, le scénario que Dieu a écrit pour chacun d'entre nous. Tout d'abord, je voudrais affirmer ceci, ne nous méprenons pas sur Jonathan. Jonathan était un homme d'une grande valeur. Jonathan était un homme selon le cœur de Dieu. Jonathan, fils de Saül, avait toutes les qualités nécessaires pour succéder à son père. Il aurait fait un excellent roi. Il aurait pu être le choix de Dieu. En bien des points, les qualités de Jonathan équivalaient celles de David. Et à travers deux épisodes de la vie de Jonathan, je voudrais dresser un rapide portrait moral et spirituel de cet homme. Je vous invite à regarder rapidement dans 1 Samuel 14. Et dans ce passage, nous allons découvrir la foi de Jonathan. Je vous dresse la situation. Samuel avait dit à son père Saül, « Tu m'attendras 7 jours. » Et le 7e jour, j'arriverai et tu offriras des sacrifices et tu iras combattre. Et Saül avait réuni son armée à Gilgal pour affronter l'ennemi. Et Saül avait dit, d'accord, j'attendrai 1 jour, 2 jours, 5 jours, 6 jours et voilà le 7e jour. Et pendant toute cette semaine qui s'écoule, l'armée du Philistin, l'armée professionnelle, qui fait face à lui se renforce. Et pendant ce temps, l'armée, si on peut parler d'armée, des Israélites, elle a plutôt tendance à se disperser. Et l'armée ennemie se renforce et l'armée d'Israël, elle diminue. Et bien sûr, Saül sent la pression. Et quand le 7e jour arrive et que Samuel n'arrive pas, que les heures passent, et que son peuple est de plus en plus dans l'angoisse, que ses soldats commencent à fuir le combat, il va dire, eh bien, je vais offrir des sacrifices, et ensuite nous irons combattre. Mais voilà qu'aussitôt qu'il a accompli les sacrifices, Samuel arrive, et il se met en colère contre Saül. C'est dans ce contexte-là que Jonathan va manifester sa fidélité à l'égard de Dieu. Saül est avec ses soldats, ils ne sont plus que 600 autour de lui. Il campe sous un bel arbre, le grenadier de Migron, nous dit la Bible, et il semble que depuis la parole de Samuel, Saül est comme tétanisé, il ne sait plus quoi faire. L'armée des Philistins se renforce et son armée, elle diminue. Alors Jonathan va se lever avec son porteur d'armes à deux, ils vont partir. Et à deux, ils vont aller accomplir un exploit. Au verset 6, 14:6, Jonathan dit « Rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Ils ne sont que deux. » Saül et ses hommes étaient 600, mais ils étaient apeurés. Jonathan et son porteur d'hommes ne sont que deux, mais ils vont monter la montagne et aller combattre les Philistins parce qu'ils s'appuient sur Dieu. Ce que je veux noter ce jour-là, premièrement, c'est que Jonathan a été un homme de foi. Je dois dire aussi qu'il a été un homme de courage. Parce que nous retenons facilement David face à Goliath. Mais si vous relisez ce passage, vous découvrirez que Jonathan et son aide-de-camp à deux hommes ont fait face là à tout un avant-poste. Ils étaient plusieurs dizaines et dizaines de soldats philistins, deux au milieu de toute la troupe, et ils ont remporté une victoire. Un homme de courage, l'acte héroïque de Jonathan vaut bien celui de David. Un homme de foi, un homme de courage, mais un homme indépendant à l'égard de son père. Et ça, c'est une pensée très forte que je veux laisser sur votre cœur, surtout par rapport à la suite du message. À ce moment-là, Jonathan sait se détacher de son père. Alors que son père est dans la peur sous le grenadier, Jonathan, avec son aide de camp, va monter au combat. Et il est écrit ceci au verset premier, « Il n'en dit rien à son père ». Et au verset 3, il est écrit « Jonathan s'en était allé ». Et nous y reviendrons, gardez ça en tête, c'est important pour la suite du message. Un autre passage pour souligner les qualités morales et spirituelles de Jonathan, c'est au chapitre 18 de 1 Samuel 18. Vous retrouvez ce passage du verset 1 à 5, vous pourrez le lire vous aussi, peut-être le connaissez-vous déjà. Nous sommes là, sitôt après la victoire de David sur Goliath, et Jonathan va se prendre affection pour ce jeune homme. Jonathan est beaucoup plus âgé que David. Jonathan est le prince. David est un illustre inconnu, un berger arrivant de Bethléem, et il a manifesté lui aussi un courage qui certainement rappelait à Jonathan ce qu'il avait été il y a quelques années auparavant. Et voyant dans ce jeune homme une noblesse, une simplicité, des valeurs morales et spirituelles, Jonathan s'attache tout de suite à David, et David s'attache à Jonathan, et entre eux une amitié très forte va se nouer, une amitié qui va même être conclue par une alliance. Ils vont faire alliance, nous dit le texte. Que va faire Jonathan? Il va donner son manteau, le manteau du prince, un beau manteau. Il va donner ses vêtements. Les vêtements d'un fils de roi. Il va donner ses armes, les armes avec lesquelles il avait combattu, remporté des combats extraordinaires, son épée, son arc. Et il va donner sa ceinture à David, à ce berger. Il lui donne des habits de prince. L'alliance qui unit David et Jonathan, c'est une alliance de Jonathan vers David. Je vous le disais, ce n'est pas David qui fait alliance avec Jonathan, c'est Jonathan qui fait alliance avec David. Car l'alliance vient toujours de celui qui est le plus élevé. C'est Jonathan qui va vers David et David qui reçoit l'alliance de Jonathan. Et c'est une alliance qui est fondée sur l'amour véritable et pur. Et cet amour a toujours marqué le cœur de David au point qu'il va dire que l'amour de Jonathan fut plus précieux pour lui que l'amour d'une femme. Cet amour de Jonathan nous renvoie directement à l'amour de Jésus-Christ. Jésus qui a été ému de compassion pour chacun d'entre nous, n'hésitant pas à quitter sa gloire pour venir jusqu'à nous. L'alliance entre Jonathan et David, c'est aussi une alliance marquée par le dépouillement. Jonathan se dépouille, je vous l'ai expliqué, et il va enrichir David. David n'avait rien, Jonathan avait tout, et Jonathan lui donne tout pour que David possède. Et nous avons là aussi une image prophétique, une image messianique saisissante de ce que Jésus a accompli pour nous. Jésus, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous, afin que nous soyons enrichis, de Corinthiens 8:9. Troisième point de cette alliance entre Jonathan et David, C'est une alliance de l'esprit et non pas de la chair et de la religion. Rappelez-vous, avant de monter au combat contre Goliath, David avait été convoqué pour aller rencontrer Saül. Et Saül, voyant ce berger venir à lui, dit « Tu vas partir au combat comme ça ? Attends, je vais te donner mon armure, mes armes, comme ça au moins tu pourras essayer de faire quelque chose. » Mais nous le savons, l'armure que Saül donne à David ne va pas du tout l'aider. C'est une armure encombrante. C'est une armure qui n'est pas taillée pour David. Saül mesurait plus d'une tête que tout le reste du peuple. Et au lieu de l'aider, ça l'amène à trébucher. Il n'arrive même pas à bouger. Et voyez-vous, l'armure que donne à Saül, c'est l'image de la religion, l'image de la loi, quelque chose qui est sans force, quelque chose qui est froid, quelque chose qui est rigide, qui n'est pas adapté à l'homme, mais qui s'impose aux hommes. Au contraire, nous avons Jonathan qui vient vers David et lui donne un manteau, il lui donne des vêtements, ce manteau qui recouvre David, qui entoure David et qui nous parle de ce consolateur que le Seigneur nous a donné par son Saint-Esprit. Il lui donne les armes, l'épée, l'arc, la première symbolisant la puissance de la parole, et les deuxièmes la puissance des dons spirituels. L'alliance que Jonathan conclut ce jour-là avec David est une alliance d'amour, d'enrichissement, et de l'esprit. Pour conclure sur le portrait de Jonathan, je ne peux que l'associer directement à Jésus et de dire que Jonathan a été comme un type messianique, une annonce de notre Seigneur. Alors vous imaginez bien que devant un tel homme avec une telle nature spirituelle, un tel cœur, Dieu avait préparé une grande histoire. Une merveilleuse histoire pour Jonathan. Elle était écrite dans les cieux. Elle devait être vécue sur terre. Et pour qu'elle soit vécue, il fallait que Jonathan s'engage à la vivre jusqu'au bout. Et Jonathan serait donc placé face à des choix, le choix de vivre l'histoire de Dieu ou le choix de vivre une autre histoire. Je vous invite à aller un peu plus loin dans 1 Samuel 20. Nous survolons ce livre cet après-midi, nous bondissons de chapitre en chapitre. Nous allons à la fin du chapitre 20, verset 43. Ah, je vous l'ai dit, mon histoire est un peu triste. Mais elle est biblique et nous avons besoin de l'entendre. Simplement, nous lisons ce verset, je vous le resitue dans son contexte ensuite. Il est écrit « David se leva et s'en alla et Jonathan rentra dans la ville. » Jonathan avait mis du temps à réaliser combien son père avait pris en haine David. Certainement que les sentiments et le jugement même de Jonathan étaient altérés par l'affection qu'il portait tant à son père qu'à David. Et on le comprend bien, la situation dans laquelle Jonathan se trouvait, là, entre ces deux hommes, n'est pas du tout aisée. Mais si vous relisez l'histoire de Jonathan ou si vous la connaissez, vous savez que dans le cœur de Jonathan, il n'y a pas eu de calcul politicien. Il n'y avait pas de calcul machiavélique, il n'y avait pas de mauvaise pensée. Il n'a pas cherché à savoir avec qui il monnaierait son attachement. Il n'a pas eu l'idée de savoir qui c'est qui lui donnerait le plus. Jonathan était un homme de valeur, mais un homme tiraillé par des sentiments envers un homme et un autre, envers son père et envers David, son ami. Il a fallu du temps à Jonathan pour comprendre, et puis un jour tout s'est révélé, tout s'est précipité, lorsque les ministres et les principaux officiers de Saül ont été convoqués à un grand banquet qui devait s'étaler sur plusieurs jours. Et le premier soir, David était absent. Saül le remarqua, il était tendu, mais il laissa passer la chose. Mais le second soir, David était encore absent. Et ce soir-là, Saül n'a pas pu réfréner sa colère. Alors il s'est levé, il a bondi, prêt à prendre sa lance, à frapper le siège de David, presque même à s'en prendre à son fils, à cause de la haine qu'il a contre David. Et c'est à ce moment-là que Jonathan comprend combien son père veut la mort de David, son ami. Et c'est là que, nous le comprenons, Jonathan est à un tournant de sa vie. Jusque-là, peut-être oui, refusait-il de voir et donc de prendre une décision. Mais maintenant, il va devoir se déterminer dans son affection. Qu'allait-il faire ? Oh, certes, avertir David. Et c'est ce qui se passe dans ce chapitre 20. Il va avertir David que son père veut le tuer et qu'il doit fuir. Mais ça ne lui coûte pas grand-chose. Mais irait-il plus loin ? Irait-il plus loin ? Et à qui s'attacherait-il ? Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, 1 Samuel 14. Alors que son père est là dans la crainte, ne sachant plus quoi faire face à l'armée ennemie qui est autour de lui, Jonathan va produire cette action d'éclat avec son soldat. Ils vont monter tout seuls au combat face aux Philistins. Et Dieu a accordé ce jour-là une grande victoire à Israël. Jonathan avait fait le bon choix, le choix de la foi. Et dans ses premières décisions courageuses, nous pouvons y voir comme autant de bonnes dispositions de la part de Jonathan à vivre son histoire. Jonathan veut vivre son histoire de foi. Et toutes ces premières étapes ont été comme des préparations en vue des choix plus décisifs, des choix qu'il doit prendre à ce moment dans notre histoire. Malheureusement, ce jour-là, Jonathan fit le mauvais choix. Il avertit David. Mais il laissa David partir. Et lui retourna dans la ville. Autrement dit, ce jour-là, il s'attacha à son père. Il se lia à son père. Je ne dis pas que ce jour-là, Jonathan a perdu son âme. Je ne dis pas que ce jour-là, le caractère et les valeurs morales et spirituelles de Jonathan se sont corrompues. Par contre, j'affirme que par ce mauvais choix, ce jour-là, Jonathan est sorti de l'histoire que Dieu avait écrite pour lui dans les cieux. Dieu est un Dieu de grâce. Et Dieu aimait Jonathan. Aussi, le Seigneur a-t-il créé une situation, une occasion pour que Jonathan puisse revenir dans son histoire. Dieu ne nous abandonne pas. Il veut nous ramener sans cesse dans son histoire. Il nous arrive de faire des mauvais choix. Mais Dieu est un Dieu qui veut nous ramener dans l'histoire qu'il a écrite pour nous. Alors il replace un moment dans la vie de Jonathan où il va pouvoir de nouveau revenir dans l'histoire de Dieu pour sa vie. Nous voyons cela dans 1 Samuel 23, à partir du verset 16. David est en fuite devant les soldats de Saül, il se cache dans une forêt. Et Jonathan, nous est-il dit, va se lever et il va aller vers David, verset 16. Il quitte son palais, il va trouver David. Et là, le texte a cette belle parole. Quand il va trouver David, il va le fortifier sa confiance en Dieu. Il fortifia sa confiance en Dieu. Ici, ça nous parle du rôle positif que Jonathan exerçait auprès de David. Toute la sagesse, le soutien que cet homme était appelé à porter auprès du roi. Et Jonathan était pleinement conscient de l'histoire de David, mais aussi de sa propre histoire. Puisqu'il dit à David, « Toi, tu règneras sur Israël, et moi, je serai second auprès de toi. » On voit l'humilité de Jonathan. Il connaît l'histoire de David. Il sait ce que Dieu a écrit pour David, et il sait aussi ce que Dieu a écrit pour lui. Malheureusement, comment ce passage finit-il ? Au verset 18, il nous y dit qu'ils firent tous deux encore alliance devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt, tandis qu'encore une fois, Jonathan s'en alla chez lui. Qu'est-ce qui empêchait Jonathan de rester avec David ? étant conscient de la destinée écrite par Dieu pour David et pour lui-même, pourquoi donc est-il retourné vers son père, sachant les sentiments de haine qui animaient son père? Et nous comprenons que par deux fois, Jonathan a échoué à écrire son destin, à écrire son histoire en choisissant de retourner chez lui. Jonathan connaissait l'histoire de Dieu pour sa vie, mais il s'est replié. Pourquoi s'est-il replié? Pourquoi n'a-t-il pas avancé dans l'histoire de Dieu? Parce qu'il ne sut pas quitter son père. Abraham a quitté la patrie de son père. C'est ce que Dieu lui avait dit. Tu quitteras la maison de ton père et tu iras en Canaan. Élisée a quitté son père lorsque Élie l'a appelé à le suivre. Et loué soit notre Seigneur lui-même a quitté notre Dieu, notre Père, pour venir parmi les hommes. Un jour, un homme vient voir Jésus. Permets-moi, je veux te suivre, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé des miens. Jésus va lui dire... Quiconque fait cela est impropre au royaume de Dieu. À qui va notre attachement? Jonathan ne sut pas quitter son père. Et nous, sommes-nous prêts à quitter notre père? Oh, je ne parle pas ici forcément d'un père humain. Mais je parle de cette force spirituelle, morale, culturelle, religieuse, qui peut nous retenir de vivre l'histoire de Dieu pour notre vie. Cette influence peut être positive, c'est de l'amour, de l'attachement. Elle peut être aussi négative, coercitive. On est comme prisonnier de cette influence. Et tant que nous demeurons dans cette influence, tant que nous demeurons auprès de Saül, notre père, nous ne pouvons pas accomplir notre histoire. Mes frères et sœurs, combien de chrétiens n'ont pas écrit leur histoire parce qu'ils sont restés attachés à Saül, au père charnel? Combien d'églises n'ont pas accompli leur vocation parce qu'elles sont restées attachées à l'esprit de Saül? Combien de ministères n'ont pas accompli ce que Dieu avait écrit pour eux parce qu'ils sont restés attachés à l'esprit de Saül? Et toi-même, à qui es-tu attaché? À Jésus-Christ ou à Saül? Et ce choix est déterminant pour toute notre vie. Jonathan a échoué et à cause de cela, il est passé à côté de l'histoire de Dieu pour sa vie. Autrement dit, il est resté dans le ciel une histoire. Une histoire écrite, mais une histoire non vécue. Une belle histoire. Une histoire écrite par Dieu, préparée par Dieu pour ce jeune homme, Jonathan, qui avait toutes les capacités, toutes les qualités pour vivre cette histoire. Mais malheureusement, Jonathan a achevé sa course trop tôt. Parce qu'il s'est lié à son père. Et ce jour-là, à la fin de 1 Samuel 23, je vous le disais tout à l'heure, Jonathan disparaît des Écritures. Vous ne retrouvez plus le nom de Jonathan jusqu'à la fin du premier livre de Samuel où il est compté parmi les morts sur la montagne de Gilboa. Voyez-vous, il savait, il connaissait son histoire, il savait ce que Dieu avait préparé pour lui, mais il est resté attaché à Saül et à cause de cela, il a fini sur Gilboa, sur cette montagne maudite. Vous savez ce qui est triste? S'il n'y avait que l'histoire de Jonathan, mais combien d'autres histoires écrites dans le ciel n'ont jamais été vécues sur la terre? Dieu a écrit une histoire pour toi. Il fera tout. Il fera tout pour que tu la vives. Mais tes choix restent déterminants. Parce qu'il t'appartient à toi de la vivre. Permettez-moi ça. C'est extra-biblique ce que je veux dire. Oh, c'est peut-être remuer le couteau dans la plaie, mais je veux quand même le faire. Et je veux imaginer Jonathan un instant, au lieu de rentrer dans la ville, au lieu de retourner vers son père, partir avec David. Je veux imaginer quelle aurait pu être l'histoire que Dieu avait écrite dans les cieux, non seulement pour Jonathan, mais pour David. Alors, ils seraient partis tous les deux. Évidemment, si Jonathan était parti avec David, la première des choses à dire est terrible. Mais Jonathan ne serait pas mort sur la montagne de Gilboa. David n'était pas à la bataille, il était ailleurs. Dieu l'avait mis à l'écart et Jonathan aurait été mis à l'écart. Et je veux avancer encore et penser au moment où David commence à régner. Et pendant toute une période, il y a une guerre civile en Israël entre David et les descendants de Saül. Saül a encore un fils et il y a une guerre civile. Pendant plusieurs années, des combats fratricides. Et je me dis, si Jonathan avait été là, il aurait su ramener les partisans de Saül auprès de David. Il aurait su parler au cœur de ces hommes pour leur dire, David est le choix de Dieu, mais Dieu me place à côté de David. Et on peut encore imaginer les années. Et je pense à d'autres événements. Je pense à cet homme Joab. C'était le général en chef de David, des armées de David. Et David disait, mais cet homme est trop puissant. C'était un homme de valeur, au combat, certes, mais c'était un homme qui portait du sang sur ses mains, un meurtrier. Et je me dis, si Jonathan avait été là, oh, il aurait certainement contrebalancé la puissance de Joab. Et je vais encore plus loin, au jour où David, au lieu de partir au combat, est resté à Jérusalem. C'était l'été, il faisait chaud. Et un soir, il monta sur les terrasses. Et là, une jeune femme prenait son bain. Elle s'appelait Bathsheba, mariée à cet homme, ce soldat de David, Uri. Et si Jonathan avait été là? Si Jonathan avait été là? Et au jour où Absalom s'est révolté contre son père, si Jonathan avait été là? Tout ça pour finir par me dire, Seigneur, David a été entouré d'hommes vaillants, il le dit lui-même. Mais David a connu beaucoup de souffrances. Il le dit aussi. Et je me pose la question. N'a-t-il pas manqué un homme auprès de David? Cet homme, c'était Jonathan. Si Jonathan avait été avec David, pouvons-nous imaginer ce qu'aurait été le royaume d'Israël? La stabilité, la force. L'histoire même de David aurait été différente. L'histoire d'Israël aurait été différente. Jonathan n'a pas vécu son histoire. Parce qu'au lieu de s'attacher à David, il s'est attaché à son père. Dieu a écrit un scénario pour nos vies. Et je sais que le scénario que Dieu a écrit pour nous finit sur une fin extraordinaire. Peut-être que le scénario de Dieu est parfois marqué de tant d'épreuves, de difficultés, mais l'aboutissement est glorieux. Il vaut mieux que tous les scénarios d'Hollywood. Et Dieu nous a dit, tu seras acteur de ce scénario parce que c'est pour toi que j'ai écrit ce film. C'est pour toi que je l'ai écrit. Je veux le réaliser avec toi. Et même, tu sais, Dieu nous dit, je vais produire ce film parce que je vais donner tous les moyens. Je donne tous les moyens pour que ce film soit le plus beau. Maintenant, allons-nous vivre le scénario que Dieu a écrit? Dieu nous prépare, fortifie notre foi, notre courage. Il viendra un moment dans notre vie où il y aura ce choix parmi tant de choix, Mais ce choix qui est peut-être un des choix les plus fondamentaux, le choix de notre affection. Vers qui ira notre affection? Vers Jésus-Christ ou vers Saül? Je ne dis pas qu'il faut tuer le Père. Mais je dis qu'il nous faut nous détacher de lui pour nous attacher à Christ. Jonathan était un homme de valeur, mais il n'a pas su se détacher de son père. Et à cause de ça, il a lié son destin à celui de son père. Et cela l'a conduit d'une manière tragique et précipitée à mourir sur la montagne de Gilboa. Mon histoire est triste. Pourtant, elle aurait pu être belle. Elle aurait pu être belle. Alors vivez votre histoire. Vivez votre histoire. Pesez vos choix. Vers qui va votre affection? Cela est déterminant pour votre vie. Le Seigneur a dit ceci, c'est ma dernière parole, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Jésus a écrit une histoire pour ta vie. Vis-la jusqu'au bout. Amen. Selon incliner nos fronts, Romain et l'équipe de louanges viendront pour conduire ensuite dans un dernier chant. Je laisse cette parole sur votre cœur et je sais que c'est une parole un peu difficile, un peu lourde à porter. C'est des paroles qui nous édifient, des paroles qui nous amènent à réfléchir. Mais ces paroles sont bibliques. Et l'histoire de Jonathan est là pour nous instruire. Certains au milieu de nous connaissent bien Saül. Oh, certains pourraient témoigner qu'un jour ils ont dû faire le choix entre Jésus-Christ et Saül. C'était un choix difficile, un choix pénible. Quitter Saül, quitter son père, ce n'est pas un choix léger. Ça nous déchire. Il y a une affection. Vous comprenez que je ne parle pas simplement de notre père biologique, hein, mais encore de tout ce qu'il faisait, de tout ce qu'il nourrissait, de tout ce qui était un repère dans notre vie. Mais plusieurs pourront nous dire, oui, j'ai fait ce choix, mon cœur a été déchiré, mais j'ai suivi Jésus. Et peut-être certains au milieu de nous cet après-midi sont peut-être là déjà maintenant à ce moment déterminant, vers qui va se porter ton affection? Tu veux vivre l'histoire de Jésus pour ta vie. Mais Saül est encore là. Et maintenant, vers qui vas-tu tourner? Vers qui vas-tu aller? Vas-tu retourner vers Saül? Ou vas-tu aller vers David? Vas-tu aller vers Jésus-Christ?